Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et quand tu passes un certain stade, qu'elle commence à un peu parler, bah en fait, du coup, tu te détends, enfin, tu vois que ça va, quoi. Quand elle marche, tu te dis, ok, parce qu'en fait, on nous avait dit que chaque acquisition était une petite victoire, parce qu'en fait, on ne sait pas sur quoi elle peut avoir un déficit, d'autant plus qu'elle avait eu cette espèce d'AVC à la naissance, dont on n'avait pas eu vent, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait, en fait, elle avait saigné. Et du coup, tu sais, quand elle frappe dans ses mains, t'es content, quand elle tient assis, t'es content, quand elle marche, t'es content, quand elle parle, t'es content, et puis... Et en fait, après, tu commences quand même à aller mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être un peu plus légère, quoi, à chaque fois qu'elle progressait, quoi. Et puis, en fait, on a trouvé un rythme à trois. Et bah, du coup, moi, très vite, j'en ai voulu un deuxième. Hein. Et non, mais en fait, maintenant, c'est cool, ça va. Allez, on se remet dans la galère.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
C'est fou quand même, l'être humain, la résilience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Karine.
Bon, déjà, on a toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants, ouais. Donc voilà.
Mais l'expérience, là, elle est.
Ouais, bah justement, je pense qu'il y avait un espèce de truc à réparer, peut-être, tu vois. Un peu un truc de se dire, ok, ça peut pas toujours se passer comme ça. Tu vois. Du coup, peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Et en plus, on nous avait quand même dit que le risque génétique était faible. C'est-à-dire que, nous, dans tout le suivi, on nous avait proposé le dépistage génétique. Au début, on avait refusé parce qu'en fait, ça aussi, c'est dû à notre formation, mais il faut toujours réfléchir, quand tu le fais, au résultat, tu vois. Et si on te dit... en fait, on connaît plein de gènes, mais on ne sait pas forcément à quoi ça t'expose. Si on te dit, elle a telle mutation, et tu fais, mais ok, mais je fais quoi avec ça? On ne sait pas ce que ça engendre. Enfin, tu vois, est-ce qu'on a envie de lui donner ça? De lui donner ces connaissances qui, en fait, n'en sont pas? Parce que tu vois, quand on te dit votre enfant, elle a la trisomie 21, ok, on te dit derrière, il peut y avoir ça, et on peut faire ça. Et là, juste, on va te dire, elle a telle mutation. Voilà. Bon. Donc, en fait, au début, on s'est dit, en fait, non, on n'a pas. Si elle veut, elle le fera, et puis, en fait, on n'a pas forcément envie. Et un jour, j'étais enceinte de 6 mois de mon fils, je pense, et elle a eu encore une hospitalisation pour IRM, examen dans tous les sens, un rendez-vous, ORL, dermato, tout ça. Et en fait, la dermato, à ce moment-là, m'a dit que sa malformation vasculaire de la face pouvait être en lien indirect avec sa malformation vasculaire, cérébrale, parce que C'était un problème vasculaire dans les deux cas, et donc ça pouvait être un gène impliqué dans l'angiogénèse, donc la création ou l'apoptose des vaisseaux. Et je me suis dit, bah, en fait, du coup, pourquoi pas ? Parce que là, pour l'aspect cutané, si ça évoluait mal, il y avait des traitements en fonction de certaines mutations. Donc on s'est dit, ok, on va faire le test. On l'a fait, on a dû le faire 3 fois pour avoir des résultats, parce qu'à chaque fois, les tumeurs étaient perdus, hémolysés, bon, bref. Et on a eu les résultats il y a très peu de temps, là, donc bon, il n'y a pas de mutation. On revient au point de départ que finalement, on ne sait pas. Mais bon, voilà, au moins, on a balayé ce pan-là. Donc du coup, bah, quand j'étais enceinte de mon fils, je suis tombée enceinte tout de suite. J'ai enlevé mon stérilet et le cycle d'après, j'étais enceinte. Et donc, on ne savait pas, en fait, à ce moment-là. Donc, du coup, là, on habitait à côté de Bicêtre. Donc, j'ai décidé de me faire suivre à Bicêtre, puisque je savais que dans tous les cas, il faudrait une surveillance rapprochée, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait. Donc, potentiellement, ça pouvait se reproduire. Et en fait, il allait très bien. Je suis tombée sur un gynéco. Trop bien. Qui était vraiment génial. Qui du coup... a très tôt voulu me mettre en arrêt parce que j'avais quand même un métier où j'étais tout le temps debout, très fatigant. J'ai pas voulu tout de suite. Et en fait, à 6 mois, Thibaut s'est fâché très fort parce que je rentrais. Je partais en gros à 7h, je rentrais à 19-20h le soir. Il y avait des midis où j'avais pas le temps de manger. Et en gros, il m'a dit, tu sais, en fait, c'est mon enfant aussi. Et ben moi, je veux pas qu'il lui arrive tout ça, ce petit. En fait,
il est un peu en train de faire de la merde, là.
Ouais. Et j'étais en train de repartir en fait dans le même délire. Et il m'a dit non, en fait, stop. Enfin, tout va bien, tout se passe bien. Enfin, pourquoi tu fais ça ? Et du coup, je me suis arrêtée. Et j'ai passé une semaine incrustée dans mon canapé, mais incrustée. C'est-à-dire que je dormais 12 heures par jour sur mon canapé pendant une semaine. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Enfin, c'était horrible. Il a amené ma fille à la crèche le matin, il rentrait le soir avec elle. Je n'avais pas bougé tellement j'avais une dette de sommeil. Que j'avais accumulé, enfin j'avais tiré la corde jusqu'au bout, quoi. Et en fait, ça m'a fait trop du bien de passer 3 mois à la maison. Bon, je continue un peu à travailler, mais en distanciel. C'était bien parce que du coup, c'était post-Covid, tout était organisé, donc c'était très pratique.
T'avais peur de t'arrêter à ce moment-là ? T'avais peur de revenir dans ta tête de...
Ça, pas trop, mais moi, j'ai globalement du mal à m'arrêter. C'est-à-dire que...
Tu es toujours une personne intense. Hein.
On se lève et jusqu'à ce qu'on se couche, jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue, on ne s'arrête pas. Donc oui, forcément, j'avais du mal à être seule à la maison. Je me suis mis à la couture, du coup. Donc j'en faisais des heures et des heures par jour.
J'ai devenu ultra performante en couture.
Exactement.
Championne du monde de couture.
Voilà, je peux pas trop m'arrêter. Ça me faisait très peur. Enfin, vraiment, ça me faisait très peur de m'arrêter. Et ce qui a été très bien, c'est que du coup... Enfin, moi, tu vois, par exemple, j'idéalisais... J'enviais en fait plutôt toutes les nanas qui font de l'autonomie, du champ prénatal. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai même pas fait les cours de préparation à l'accouchement pour le premier accouchement.
Tu ne te laisses pas le temps de faire ça.
Et voilà. Et en fait, c'est ce que m'a dit Thibaut. Thibaut m'a dit non, mais en fait, tu as le temps. Tu ne le prends pas. Tu ne te l'accordes pas. Donc ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, j'ai fait une préparation à l'accouchement avec de l'hypnose. C'était très cool. Ça m'a permis aussi de revenir sur toute la première grossesse. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. Et en fait, heureusement que je me suis arrêtée à 6 mois, parce que très peu de temps après que je me sois arrêtée, donc il y a eu cette hospitalisation de Jeanne toute la journée. Quelques jours après, elle mettait encore des couches à l'époque, mais elle demandait vachement à être propre. En fait, elle a passé une journée à me dire qu'elle voulait aller aux toilettes. Mais du coup, je pense qu'elle avait très peur de faire sur elle, et donc on y allait toutes les 4 minutes. Et donc elle s'essuyait toutes les 4 minutes et elle s'est collée une infection urinaire. Et donc on s'est retrouvés aux urgences de Bicêtre, en plein milieu de la nuit, en plein mois de février. Et en fait, elle hurlait de douleur dans la nuit. Mais j'ai dit, mais en fait, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on y aille. On y a été, sauf que c'était encore Covid, et donc un seul parent. Bon, on était seuls aux urgences, mais ils nous ont dit, j'étais enceinte de 7 mois, elle ne voulait que sa mère. Mais ils nous ont dit, non, c'est qu'un seul parent, monsieur, vous ne pouvez pas rester. Donc du coup en fait il voulait pas rentrer à la maison parce que moi j'étais quand même assez fatiguée et donc il m'a dit bah je t'attends dehors. Donc il y avait tu sais un espèce de hall ouvert, donc du coup t'as quand même froid mais en même temps t'es pas complètement dehors et puis en fait dehors bah il neige donc il vaut mieux, enfin bon bref. Et donc du coup en fait on a fait des allers-retours tous les deux pour qu'il y en ait toujours un avec elle et on est rentré avec des antibiotiques et la crève. Et en fait quelques jours après je vais aux toilettes et là je vois dans la cuvette des toilettes de la mousse, mais vraiment comme comme de la mousse de bière, quoi. Donc je sors des toilettes, je dis à Thibaut, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut, oh, ça fait quelques jours que quand je fais pipi, il y a de la mousse, mais bon, ça va. Je dis, non, mais ça va pas du tout, mec, enfin, à quel moment ça va? Non, mais ça va pas du tout, en fait. Et donc, j'essaie de l'interroger un peu, je fais rejaillir mes vieux souvenirs d'études de médecine. Et donc, en fait, il pissait du coca. Il pissait marron, mousseux, depuis genre une semaine.
Putain, les mecs.
Et donc, ben...
Les mecs qui prennent pas soin d'eux.
Exactement.
C'est un délire. Hein.
Le déni total. Mmh. Et donc, il me dit, mais c'est rien. En fait, quand il était étudiant, il avait fait un calcul rénal une fois. Donc, il me dit, ça doit être un calcul. Je dis, mais Thibaut, à quel moment un calcul, c'est du pissé du coca, gars? Non, en fait, pas du tout. Donc, comme il fait partie de ces gens qui sont voilà, qui ne prennent pas soin d'eux, je lui ai pris rendez-vous chez un médecin.
C'est toi qui l'as.
Mais bien sûr. Je lui ai aussi pris une mutuelle, hein, parce que là, je sentais bien que ça allait partir en torche, le truc. Donc, je lui ai pris une mutuelle et un rendez-vous chez le médecin. Et puis, il est allé chez le médecin, qui lui a prescrit un bilan sanguin. Et en fait, on a reçu les résultats à 23h45, et le lendemain, on partait en vacances. Et là, on a vu qu'il était insuffisant rénal. Mais genre, sévère. Donc, bah, moi j'étais enceinte de 7 mois, hein, donc tu te doutes bien que bah, j'ai chialé. Hein. Je me voyais déjà élever mes enfants seuls. Enfin, voilà. Ah non, en fait, c'est pas possible. Et puis, c'est très particulier d'être enceinte d'un enfant en te disant qu'il connaîtra peut-être jamais son père. Enfin, vraiment, bah, parce que...
T'es partie là-dedans direct.
Bah ouais, parce qu'en fait, l'insuffisance rénale, ça te crée des troubles ioniques qui
ça aussi,
peuvent
c'est
faire...
C'est le genre de truc que
ouais.
Toi-même, tu sais.
Bah, bien sûr,
que...
qui font déconner ton cœur. Et en gros, bah, si ton cœur déconne, c'est fini, quoi.
Oui.
Et ça faisait plusieurs jours qui pissait du coca, donc moi je me suis dit, mais en fait, enfin là on est. Enfin, c'est terminé, enfin voilà, ciao. En fait, il m'a avoué à ce moment-là que oui, il avait des œdèmes depuis un moment, mais qu'il était un peu dans le déni.
Waouh!
Ouais, qu'il sentait qu'en fait, quand même, il avait de la tension, mais que bon, moi je lui ai toujours dit, j'ai toujours trouvé qu'il avait les vaisseaux cervicaux qui battaient. Bon, on se fait des petites blagues entre médecins très drôles. J'ai toujours dit, toi à 40 ans, tu seras sous antihypertenseur parce que, enfin voilà.
Excellente blague.
Ouais, bah oui, hein, évidemment. Bon, et bah, en fait, c'était à 30 ans, pas à 40. Je m'étais plantée de 10 ans. Bon. Et du coup, il m'a dit, ouais, je sens, en fait, depuis que j'ai des poussées de tension et tout. Et donc, en fait, je dis, bah là, faut que tu retournes chez le médecin, globalement. Il y est retourné. Et c'était très mignon. Le médecin lui a dit, il avait 20 de tension. Il lui a dit, c'est peut-être l'effet blouse blanche. Non, je crois pas.
20 de tension. Ouais. Je savais même pas que ça existait.
Ouais. J'ai quelqu'un qui a fait sport-études, hein, donc qui est quand même sportif, tu vois.
Oui.
Donc, il n'est pas censé être plutôt à 10-12, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, ben, on n'est pas parti en vacances. Je me suis tapée d'appeler à partir de 8h du mat' tous les services de néphrologie de Paris. Et je me suis fait refouler de tous les services de néphrologie de Paris et d'Île-de-France. Parce que j'ai appelé en disant, voilà, j'ai mon mari qui a 32 ans, qui est en insuffisance rénale sévère, terminale. Il faut l'hospitaliser. Là, tout de suite, il faut le voir maintenant, en fait. Et il y a une secrétaire de Bicêtre, toujours, qui, je pense, a eu pitié de moi, puisqu'en fait, j'étais en train de pleurer au téléphone en disant mais je suis enceinte et il connaîtra jamais son père. Et qui m'a dit, bah, envoyez-moi le dossier par mail et je vais voir un médecin. Et bah, du coup, entre-temps, on est parti. On est parti chez ses parents. Ouais, en fait, on est parti chez ses parents en Normandie, parce que lui m'a dit, en fait, même si je dois être hospitalisée, en gros, j'ai besoin de ces vacances-là. Mmh. On avait prévu... Il m'avait offert pour Noël un massage pour femme enceinte dans un hôtel où on allait quand on était en Bretagne. Et du coup, on devait faire ça, laisser Jeanne pour la première fois depuis qu'elle était née, alors qu'elle avait 2 ans, et se faire ce truc en amoureux.
Ah oui.
Et du coup, il m'a dit, en fait, moi, j'en ai besoin. Enfin, en vrai, si je dois être hospitalisée, on reviendra, mais j'ai besoin de partir là. En fait, c'est trop dur de se dire qu'on part pas parce que... déjà, personne ne voulait de lui pour l'instant. Personne ne voulait s'occuper de lui, donc voilà. Et voilà, donc du coup, on est parti chez ses parents poser Jeanne. Et en fait, cette fameuse secrétaire m'a rappelé en me disant, j'ai montré son dossier au néphrologue, il faut qu'il soit hospitalisé en urgence. Mais oui, je sais, en fait, je sais. Et donc du coup, en fait, c'était le week-end. Donc elle m'a dit, de toute façon, on fera rien le week-end, venez lundi. Donc on a fait notre petit week-end, qui n'était pas quand même hyper détendu. Hein.
Bah, j'imagine.
Mais au moins, on a eu notre moment à tous les deux. Ouais. Et puis c'était horrible parce que moi je me disais, c'est peut-être notre dernier moment à deux, il faut que j'en profite. Bon, je ne lui disais pas à lui. Mais moi quand même, Et en plus on retournait en terre bretonne qui n'avait pas été les meilleurs souvenirs de grossesse, quoi. C'était vraiment chelou.
Vous jouez pas en mode facile, hein, tous les deux. Hein. Lui aussi, hein, il a l'air d'être sacré tête de mule aussi, putain.
Ouais, ouais. Donc voilà, du coup, bah, on...
Si vous pissez du coca, sachez-le, il y a un truc
c'est
qui
pas
cloche.
Normal. Oui, c'est pas ça. Parce que vous en avez trop bu. Pas du tout. Il faut s'inquiéter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Voilà, et donc du coup on est rentré, il a été hospitalisé, donc là j'étais à 8 mois de grossesse et on lui a fait une biopsie rénale. Il a passé 48 heures hospitalisé et il est rentré, il n'avait pas le droit de porter de charge lourde pendant un mois, donc autant dire qu'il n'avait pas le droit de porter Jeanne jusqu'au terme. C'est le même moment que le, je sais plus quel ième confinement, où la crèche a décidé de nous annoncer que Jeanne n'avait plus le droit d'y aller. Parce que comme j'étais en congé mater, ben, elle faisait pas partie des enfants prioritaires à accueillir.
Incroyable.
Donc je me suis retrouvée à avoir ma fille toute la journée, pendant le dernier mois de grossesse, avec un mari qui peut rien porter et qui doit pas faire d'efforts physiques. Ben, j'avais vraiment rêvé de ça, quoi. Donc c'était super. Et puis il avait son rendez-vous pour les résultats et la néphro lui avait dit bon, on se voit telle date, sauf s'il y a un souci, je vous appelle avant. Bon, bah, je t'annonce qu'elle l'a appelé avant, hein, forcément.
Bah oui.
Et lui a dit, bah, là, vous avez une maladie de berger, donc il y a une maladie auto-immune déclenchée par les épisodes infectieux ORL, donc probablement liée à notre passage aux urgences, où il a chopé la crève. Et en fait, en gros, terrain se bouge d'anticorps. Tes anticorps ne sont plus éliminés, donc terrain se bouge et non ne filtre plus, et donc tu pisses du coca.
Ok.
Et ça détruit terrain de façon irréversible. Il y a 4 stades. Il était au stade 4. Maladie sévère et active. Bon. Il a donc été réhospitalisé. Et il a eu un traitement par cortisone en perfusion. Et puis après, il est rentré à la maison avec un traitement par cortisone en comprimé. Et ça a été ça, une alternance d'hospitalisation et de traitement à domicile pendant 6 mois. J'ai fini par accoucher. J'ai accouché, donc du coup, elle l'a rappelé en disant, bah là, lundi, vous êtes hospite, et puis on fait la première cure. Et j'ai accouché après cette première cure, ouais, parce qu'il était déjà sous traitement. Je crois qu'il a été hospitalisé la semaine avant l'accouchement, et la semaine du terme. Bah, du coup, j'ai pas accouché à terme. J'ai prolongé. Parce que bah, c'était pas possible d'accoucher dans ce chaos, bah, en oui. fait. J'avais donc décidé d'accoucher à Bicêtre aussi cette fois-là. Et puis, pour des raisons pratiques, en fait, c'était juste à côté de la maison. Mmh. C'était un niveau 3, pareil. Je me suis dit, écoute, franchement, ne te prends pas la tête, va à un endroit où, voilà, sécuritaire. Et puis, je suis arrivée le jour du terme, c'était un samedi. Et puis, la sage-femme me fait du coup les examens, donc m'examine, me fait l'échographie, tout ça. Et puis, elle me dit, la gynéco de garde veut vous voir. Très bien. Et là, je rentre. Et sa seule question a été, à quelle heure avez-vous mangé pour la dernière fois ? Bon, je comprends très bien qu'elle veut me faire une césarienne. Mmh. Donc, je lui demande naïvement pourquoi. Elle me pose cette question. Je demande si mon mari peut rentrer, puisqu'on était encore en confinement, donc pas d'accompagnant. Et elle me dit qu'en gros, il va falloir que j'apprenne à être grande, que je décide pour moi, parce que bah, là, c'est quand même de mon corps qu'il s'agit. Donc mon mari n'a pas décidé pour moi. Je lui dis oui, c'est mon corps, mais c'est son enfant qui est dedans. Donc, à partir du moment où il sera sorti, il aura l'autorité parentale, je peux quand même lui demander son avis. Enfin, moi, en tout cas, oui. Ça me semble indispensable. Et puis, j'ai besoin de soutien, en fait. Enfin, encore une fois, t'es hyper vulnérable dans ces cas-là. Et donc, elle me dit qu'elle va me faire une césarienne parce que mon col n'est pas du tout favorable et que j'ai déjà eu une césarienne. Je lui dis que je suis gynécologue et que mon mémoire portait sur les accouchements par voie passe des patientes avec un utérus cicatriciel, donc non. Et donc elle me dit elle me dit vraiment mot pour mot comme ça, votre enfant a plus de risques de mourir. Vous avez plus de risques de mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mot pour mot? J'ai dit oui. Parce qu'en fait, je savais que les risques étaient très légèrement augmentés. Mais je pense que tu dis ça à quelqu'un de lambda, il dit « faites-moi une césarienne ». Enfin, c'est évident, quoi. Mmh. Bon. Donc.
Mais là, on revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est son avis en tant qu'experte, quoi.
Exactement. Ouais, sauf que pour le coup, dans ce cas précis, c'est plus vraiment ce qui se fait. C'est-à-dire que, en effet, il y a encore 10 ans, une patiente à terme arrivée n'avait pas accouché, elle avait un antécédent de césarienne, tu lui faisais une césarienne. Et en fait, maintenant, on sait que c'est pas forcément dangereux de déclencher les patientes qui ont une césarienne. Après, en effet, une patiente qui te demande une deuxième césarienne, tu y accèdes, sans négociation, entre guillemets. Par contre, une patiente comme moi, elles étaient notées dans mon dossier, très motivée par l'accouchement à voix basse, une patiente qui demande à tenter une voix basse, tu lui accordes, à moins qu'il y ait d'autres soucis, évidemment, tu vois. Mais bon, moi, concrètement, à part ça, j'allais très bien. Donc du coup, elle me renvoie chez moi et on me revoit 2 jours plus tard, etc., jusqu'à terme plus 4, où là, on me dit, en gros, revenez demain pour le déclenchement. Je dis, écoutez, franchement, mes beaux-parents sont là pour garder ma fille, mon mari sort d'hospice, ça vous dérange si on fait ça aujourd'hui? Elle me dit non. Bon, très bien. Donc du coup, on me remet le ballonnet comme la première fois. Sauf que là, ça se passe hyper bien. Il faisait super beau. On part marcher dans l'hôpital avec Thibaut. On trouve une cour où il y avait des graviers. Donc on fait le tour de la cour 1500 fois, je pense. C'était hyper cool parce que du coup, on déjeune ensemble et tout ça. Enfin, c'était vraiment... il déjeune devant moi plutôt parce que j'avais vraiment pas faim. Mais c'était une super bonne journée. Et puis vers 17h, un truc comme ça, il me dit, écoute, je vais rentrer pour être avec Jeanne... Ok. Et puis du coup, il rentre et moi, je fais pipi et je tombe mon ballonnet. Et là, je commence à avoir des contractions. Mais bon, tranquille, franchement tranquille. Donc j'appelle la sage-femme qui arrive. C'était le relais sage-femme. Donc c'était la sage-femme de la nuit. Et donc elle arrive et elle me dit « Bonjour ». Je dis « Bonjour, j'ai perdu mon ballonnet ». Et elle me fait « Ah oui, c'est vous la césarienne de demain ?» Et là, je dis « Ok, bon, et ben, c'est mal barré. On va pas très bien s'entendre, toi et moi. » Donc je dis, on n'en est pas là. Laissez-moi encore un peu espérer. On a le droit d'y croire quand même, non?
Mais c'est incroyable.
Ouais. Ah oui, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais c'est pour ça que je suis hyper critique envers mes pères, parce que vraiment...
Oui, t'en as toi-même...
Oui, et même avant de le vivre, en fait, j'ai déjà assisté à des scènes lunaires, quoi. Donc là, je l'ai...
Mais pourquoi elle te dit ça, en fait? C'est tellement déplacé.
Ouais, alors après, je pense que elle dit ça parce que il y a en effet la moitié des patientes que tu déclenches sur un utérus cicatriciel qui finissent par avoir une deuxième césarienne, parce que t'es aussi dans une énorme maternité, et ça, je m'en suis rendu compte après, mais c'est vrai que c'est un peu l'usine, et que du coup, et surtout, c'est l'usine parce qu'en fait, ils ont que des cas hyper compliqués, et que forcément, souvent, ça tourne mal, et du coup. Par argument de fréquence.
Ouais.
Après, tu peux le penser, t'es pas obligé de le dire.
Mais
tu
c'est
vois
ça, c'est que j'allais dire.
Ouais.
Tu peux te le dire, t'es pas obligé de le verbaliser. Quoi,
t'es pas obligé de le dire à la personne concernée. Ouais. Voilà. Moi, qu'elles se le disent entre elles dans leur poste de soins, je m'en fous, tu vois. Mais qu'elle arrive pour me faire le monito en me disant ça, c'est un peu violent. Quoi.
Ouais,
surtout quand je lui dis que j'ai perdu mon ballonnet, ce qui est quand même plutôt engageant. Du coup, ça veut dire que mon col a commencé à se dilater, je commence à avoir des contractions. Moi, j'étais dans un mood hyper optimiste, quoi. Donc elle m'a fait redescendre d'un étage quand même. Et puis j'ai passé la soirée à marcher toute seule dans les couloirs, la nuit à avoir quelques contractions. Et en fait, en gros, elle m'avait dit que le protocole, c'était pas de déclencher le soir quand tu perdais le ballonnet. Ce qui arrive dans certaines équipes, ça pour le coup, c'est assez variable. C'est plutôt d'attendre le matin. Et en fait, j'étais très contente, sinon c'est elle qui m'aurait suivie, je pense, pour avoir une équipe fraîche. Et puis, parce que les décisions sont prises au staff, en collégialité, ce que je trouvais par ailleurs très bien. Et en plus, mon gynéco chouchou était de garde le lendemain, donc c'était très cool. Et du coup, à 7h du matin, j'étais en pleine séance de méditation, il y a une sage-femme qui vient me voir, qui me dit « Allez, on va en salle d'accouchement. » Ok, très bien. On y va, on me met la perfusion d'ocytocine, du coup. Et là, on rentre dans le dur, là. Donc j'appelle Thibaut, je lui dis « Écoute, prépare-toi tranquille. »
C'est le moment.
Viens tranquille, enfin voilà, prends le petit déj avec Jeanne. Je voulais pas non plus, qu'elle sente l'effervescence du truc et tout, donc je dis... Prends le petit air tranquille avec elle et tout. Et puis tu viens, de toute façon, je ne vais pas coucher dans l'heure. Donc prends ton temps. Et puis, fini par arriver, j'étais avec une sage-femme. génial. Tout le monde m'a dit, bon, on te prévient, elle a un peu cash et tout. Je dis, mais moi, ça me va. Moi, il me faut quelqu'un qui me drive, sinon je vais être le gynéco de garde. Et en fait, je préfère que ce soit elle, la sage-femme de garde. Et du coup, elle a tourné le monito. Je n'ai pas vu le rythme cardiaque de tout le travail. Elle a baissé le son au minimum. Elle m'a dit, ça, c'est mon boulot. Vous n'êtes pas là pour ça. Et en fait, elle m'a cadré, en fait.
Ouais.
Et j'avais vachement besoin de ça, en fait.
Mmh.
Et
ça
du
sent.
Coup, ouais. Ouais. Et voilà, du
parce
coup.
Parce que sans doute, tes collègues. Ont pas fait.
Ouais, complètement, parce qu'ils étaient dans le cocooning, mais ce qui était génial, en fait. Mais du coup, en effet, j'avais besoin, en fait, a posteriori,
c'est une autre
j'avais
expérience.
Besoin. Exactement. Mmh. Et elle m'a vachement cadrée, et c'était trop bien. Elle rentrait et disait, bon, allez, on va se mettre dans telle position, on va faire ça. Ok, allez, go! C'était trop bien. Et j'ai passé une super journée avec Thibaut qui dansait pour moi sur Beyoncé, parce que clairement, j'ai attendu. J'ai eu le synto à 7h, j'ai attendu midi et demi pour avoir la péri. J'ai douillé. Et donc, pour me faire rire, il dansait, il faisait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, c'était, franchement, c'était trop cool. Et donc, j'ai fini par avoir la péri. Et puis, je me suis dilatée tranquillement jusqu'à dilatation complète. Et donc, ma super sage-femme est partie à 20h en laissant le relais à sa collègue. Et donc, franchement, c'était le rush. Cette journée-là, vraiment, il y a eu je ne sais pas combien de césariennes d'accouchement, machin, tout ça. Et ils ont été au top. Enfin, vraiment, autant. Effectivement, ils ne sont pas beaucoup venus me voir parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Mais pour le coup, je sentais qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans la pièce, elle était dédiée à moi. Et c'était trop bien, en fait. Et donc, mon gynéco est parti, c'était pas lui de garde le soir. Ma sage-femme est partie, c'était pas elle de garde le soir. Et la sage-femme de la nuit arrive se présenter, et c'était la sage-femme de la veille. Donc, je me dis, mal engagée. Bon, je lui dis, après tout, là, je suis à dilatation complète, enfin, il peut rien se passer, quoi. Enfin, si. J'avais pas pensé à toutes les éventualités. Elle me réexamine, donc pendant 2 heures, elle ne peut pas venir me voir parce que trop de boulot. Et au bout de 2 heures, elle me réexamine et elle me dit, en fait, votre bébé est en OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il regarde en l'air au lieu de regarder par terre. Ce n'est pas la position idéale pour sortir. C'est possible. Mais bon, voilà. Elle voulait, avant de me faire pousser, prévenir l'équipe de garde. Parce qu'en effet, on peut avoir besoin d'aide instrumentale, du coup, pour sortir l'enfant, etc. Je dis, oui, allez-y, bien sûr, pas de souci. Et puis, moi, j'étais vraiment sur mon petit nuage. Je vais accoucher fois basse, c'est génial, je suis trop contente. Ouais. Et elle appelle l'interne de garde qui dit, il est engagé dans le bassin. En plus, mon fils était prévu petit. Et bon, j'ai quand même un bassin assez large, donc je me disais, ça va passer. Et elle me dit, je vais quand même refouler sa tête pour essayer de le tourner, pour le mettre dans la bonne position, parce que l'accouchement sera beaucoup plus facile avec l'antécédent de césarienne, etc. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. OK. Je me dis, c'est vrai, c'est une théorie qui se tient. Bon, faisons ça. Elle le refoule. Elle n'arrive pas à le retourner. Elle appelle sa chef, qui n'arrive pas à le retourner, qui me dit, on tente une ventouse pour le faire se réengager dans le bassin dans cette position qui n'est pas la meilleure, puisqu'il ne veut pas se tourner, c'est que ça doit être la sienne. Et puis on voit. Et ils n'ont jamais réussi à le réengager. Et donc on est parti en césarienne. Sauf qu'une césarienne à dilatation complète, ce n'est pas du tout pareil qu'une césarienne en cours de travail ou avant travail, puisque le col de l'utérus est entièrement dilaté, la tête du bébé du coup est très basse, et donc il y a beaucoup plus de risques d'hémorragie, de déchirure utérine, etc. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que du coup, au bloc, elle m'a dit, on retente une dernière fois de faire la ventouse, donc elle m'a mis en position gynéco, elle a réessayé, et en fait elle me dit, non vraiment, il veut pas. Donc elle m'a rallongé les jambes, et puis là je leur ai dit, je suis mal installée, je sens que je suis pas bien installée. Et puis on m'a dit, non mais là madame, il faut faire la césarienne, tout ça. Ok, alors ils avaient réinjecté aussi dans la péridurale la dose pour faire la césarienne qui est beaucoup plus forte forcément. Ils m'ont dit, non mais c'est parce que vous sentez pas vraiment, vous avez des sensations étranges. J'ai dit, ouais mais là quand même en fait, quand on me touche, je sens bien et tout, je suis pas vraiment anesthésiée. Et puis bon, avant de faire une césarienne, on teste toujours avec une pince qui a des griffes au bout pour savoir si tu sens. Et donc la tradition veut qu'on passe dans le nombril, qui est censé être le repère le plus haut à partir duquel il faut être endormi. Et donc, j'entends la gynéco dire « test », et là, je crie, parce que j'ai hyper mal, en fait. Et elle dit « bon, ben, on y va ». Je dis « non, mais ben, j'ai crié, les gars, j'ai mal, en fait ». Elle vient de me pincer l'ombilic, j'ai senti. Et l'anesthésiste me dit « ah ben là, on est à la dose max, il faut qu'on vous endorme ». Et je dis « non, mais j'ai senti, mais franchement, ça va ».
Mais non.
Mais je voulais pas d'anesthésie générale. Je voulais pas rater le moment de la naissance de mon fils.
Mais tu viens de souffrir.
Ouais.
Tu viens de dire que t'étais en train de souffrir.
Ouais. Ouais, non, mais tu sais, des fois, on est un peu con. Hein.
Et donc, tu t'es.
Ouais.
Tu t'es fait ouvrir en sentant tout.
Ouais.
Mais pourquoi?
Bah, pour le vivre. En fait, mon mari est arrivé, parce que du coup, ils ont dit, bah, on y va. Et j'ai dit, bah, papa, mon mari est pas là. Et donc, en fait, il est arrivé, ils avaient déjà commencé. Et donc, moi, j'étais en mode concentration ultime, quoi. Donc, j'étais comme ça, je parlais. Enfin, j'avais les yeux fermés. Et puis, j'étais. Et il me dit, ça va? Et donc, je répondais pas, en fait. J'étais.
Et lui, il savait pas que.
Bah, non, parce que lui, il avait pas vu
oui,
le truc.
Son anesthésie marchait pas.
Et donc, il me dit, franchement, Karen, t'es hyper bizarre, là. Et je lui dis, c'est parce que je sens tout. Il me dit, quoi? Non, mais il faut le dire. J'ai dit, non, ne dis rien.
mais t'es taré?
Mais en fait, je savais que ça allait être rapide. Parce que je sais qu'une césarienne en urgence, oui. Ça dure 20 minutes. Je me suis dit,
mais 20 minutes?
Va, 20 minutes, tu peux supporter. Donc, j'ai franchement tout senti. Bah, du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir accouché parce que j'ai senti tout son corps passer. Et du coup, il est parti avec mon mari.
Je vais tourner de l'œil, salut.
Et en fait, ça n'a pas duré 20 minutes, ça a duré 4 heures.
Quoi?
Ouais. J'ai accouché à 22h22, je suis arrivée en salle de réveil à 2h30 du matin. Parce que ça a saigné beaucoup, beaucoup, ouais. Beaucoup. Et du coup, bah, là, t'entends tout. Et tu sais ce que t'entends.
Mais donc, t'étais pas anesthésiée?
Bah, en fait, j'ai tout senti. J'ai senti tous les points qu'ils m'ont fait. Et je peux t'assurer qu'ils en ont fait un petit paquet. En fait, l'utérus s'est déchiré, comme prévu. Hein. Ouais. Ça a beaucoup saigné, sauf que l'urgence, c'est de faire sortir le bébé. Forcément, quand tu fais passer un enfant, bah, ça continue de déchirer. Bon, c'était le bordel, quoi. J'ai saigné plus d'un litre. Ils ont fermé tant bien que mal, essayé de contenir l'hémorragie. Moi, j'ai, contrairement à mon mari, une toute petite tension. Et donc, très vite, ils ont dû me mettre de la noradrénaline, qui est un médicament pour faire remonter la tension, parce que bah, je ne suivais plus trop. Quoi.
T'es pas tombé dans les vapes?
Bah, j'étais un espèce d'entre... En fait, j'arrêtais pas de dire, oh, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Et j'arrêtais surtout, je leur disais, mais j'ai toujours mal au dos, les gars. Depuis le début, je vous l'ai dit. Ils me disaient, oui, mais là, vous ne pouvez pas bouger, on est en train de vous recoudre. Oui, merci. Donc, j'avais mal au dos, je sentais tout ce qui se faisait dans mon bide, et j'avais chaud, froid, puis je sentais à moitié que je partais et tout. Et là, l'anesthésiste est venu en me disant, vous avez 6 de tension sous noradrénaline, c'est pas normal, il faut qu'on vous transfuse. Ce à quoi j'ai répondu, ne faites pas ça, je suis au négatif et je voudrais continuer à donner mon sang. Elle m'a dit d'accord.
Ah ouais.
Donc bon, après peut-être qu'elle aurait pu dire que j'étais pas complètement lucide. Mais du coup, elle m'a
en fait,
pas transfusé.
T'es pas lucide depuis le début.
Ouais. Oui, mais ouais, bah, je crois que personne s'en est vraiment rendu compte. Hein. J'ai très bien joué le jeu. Et du
j'ai
coup,
du mal à comprendre, tu vois, ce truc de... Je comprends l'idée de vouloir ne pas manquer la naissance de ton fils, en fait, mais...
Mais tu sais, t'es dans un moment... C'est pareil, parce que, tu vois, on en reparlait hier ou avant-hier avec
c'est
mes collègues.
C'est sans doute parce que je suis un mec, tu vois, à ce moment-là, tu vois, que moi, j'imagine qu'entre femmes, peut-être, c'est un
bah,
truc qui peut
que,
se comprendre,
pas
tu
que,
vois.
Parce que j'en parlais avec mes collègues filles, et elles me disaient, t'es taré.
Ouais.
En fait, c'était ta vie, là. Enfin, tu vois, tu refuses la transfusion, en fait, c'est ta vie qui est en jeu. T'as mal, mais en fait... Enfin, c'est pas si on a inventé l'anesthésie, en fait, c'est parce que c'était pas humainement supportable de se faire opérer sans.
Mais c'est ça.
Et je leur dis, ouais, mais en fait, j'étais dans un.
Puis t'es tout bim, en fait, t'es censé savoir que ça sert à ça, l'environnement hospitalier.
Ah, mais moi,
quoi.
Je peux te dire que j'en ai voulu aux patientes qui ont refusé la transfusion parce que du coup, elles te mettent en difficulté, parce qu'elles t'imposent un résultat. Si tu veux, on a une obligation de moyens en médecine. On n'a pas d'obligation de résultat parce que, évidemment, ça peut mal se terminer. Sauf que là, quand on t'empêche de mettre en œuvre des choses pour aider les gens, on t'empêche, enfin, tu vois, on te met des bâtons dans les roues pour arriver à cette obligation. Quelque part, ouais, on te force à avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire, bah, vas-y, fais, mais sans les outils. Et je l'ai fait, en fait. Enfin, je leur ai imposé ça. Donc, je m'en veux aussi pour ça, tu vois, de les avoir mis dans cette situation. Après, concrètement, quand ta vie est en jeu, normalement, on prend les décisions à ta place. Et ils m'ont laissé le choix jusqu'à la fin, donc bon, j'en ai clairement payé les conséquences. Parce que du coup, ils ont mis extrêmement longtemps avant de réussir à finir de fermer. C'était très mignon parce que l'interne, à la fin de l'intervention, a baissé le champ opératoire, a enlevé ses gants en m'aspergeant de micro-gouttelettes de mon propre sang utérin
sur le
visage et en me disant « Tout s'est bien passé, vous avez un petit peu saigné ». J'ai trouvé ça extrêmement mignon. Parce que je les entendais dire « Encore des champs opératoires, encore des champs. Est-ce qu'on peut peser les champs ?» En fait, on pèse pour avoir l'estimation des pertes sanguines. Et donc, en fait, bon, tu fais globalement pas ça sur toutes les césariennes. Il faut vraiment que ça soit en beurade avancée. Et donc, du coup, c'est très mignon de me dire que ça avait un petit peu saigné. Et du coup, je suis arrivée en salle de réveil et là, j'étais dans les vapes, mais ultime, mais vraiment, mais ultime. Thibaut n'avait pas le droit de venir me voir là pour le coup. Il a fait du forcing, mais vraiment beaucoup. Il a réussi à venir en me disant, non, mais en fait, j'ai pas de nouvelles. Ça fait 4 heures que la césarienne a eu lieu. En fait, les gars, enfin, mettez-vous 2 secondes à ma place. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu le droit de venir et il m'a dit, en fait, j'ai vu un drap. Il m'a dit, t'étais transparente. T'étais pas blanche, t'étais pas grise, t'étais transparente. Et en fait, oui, j'avais 6 grammes d'hémoglobine quand le taux normal est à 12-13. Donc forcément, j'étais pas hyper en forme. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là. Parce que donc j'ai découvert mon fils à ce moment-là. Bon, évidemment qu'il était plus le bébé du monde, ça va sans dire. Mais j'étais très très mal, vraiment très très mal. Je suis remontée dans ma chambre vers 4 heures du matin, donc encore 2 heures plus tard. Parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter les perfusions pour maintenir ma tension. Et j'arrêtais pas de dire que j'avais mal au dos. Et ils me disaient, on ne peut pas vous asseoir parce qu'il faut que vous restiez allongée les jambes en l'air parce que sinon vous n'avez pas de tension. Donc je faisais des espèces de micro-malaises et puis je revenais à moi. Enfin, c'était trop bizarre, trop bizarre. Et puis, et par contre, ils m'ont fait... Parce que du coup, j'ai beaucoup transpiré. Tu sais, t'es dans un état un peu où ton corps fait un peu nimp. Et du coup, ils m'ont fait, avant de me remonter en chambre, j'étais toute seule en salle de réveil cette nuit-là, et ils m'ont fait une toilette de la tête aux pieds. Et donc, je suis remontée, propre, fraîche. C'était génial. Parce que t'as l'impression de sortir d'un champ de bataille et en fait... ça fait une vraie transition. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un bien. Enfin, je les remercie encore parce que c'était vraiment génial. Et je suis remontée en chambre. Et donc, il était 4h30 du matin avec Thibaut, du coup, et Maximilien. Et en fait, Thibaut est parti parce qu'il n'avait pas le droit de rester. Et puis voilà. Et là, j'ai dû gérer mon fils toute seule avec mes 50 milliards de points à l'intérieur qui tiraient comme pas possible.
Oh là là.
Ma sonde urinaire.
Mais ta vie.
Ouais.
Et je me demande comment vont prendre les, tu vois, par exemple les femmes qui n'ont pas encore d'enfants.
On se dit, bon, c'est peut-être vraiment le meilleur truc à ne pas faire d'enfants finalement.
Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein.
Bah ouais.
Heureusement.
Mais là, t'es vraiment passé de l'autre côté de tes gynécos, ça se passe mal quoi.
J'ai tout testé, je peux parler de tout, c'est génial. Voilà, et puis du coup, le lendemain matin, on m'a dit, va falloir se lever pour s'occuper du petit. J'ai dit, mais c'est-à-dire, parce que j'ai quand même une sonde urinaire, je ne peux pas me pencher pour l'attraper, parce qu'en fait, j'ai hyper mal au bide. Ah oui, et soit dit en passant, depuis que la péridurale s'est levée, je ne sens plus mon dos. Ils m'ont dit, pardon ? Non, en fait, je ne sens plus mon dos. J'ai une sensation de fourmillement, comme quand tu as une jambe engourdie, 24 heures sur 24. Ça ne récupère pas, ça a duré 6 mois, 24 heures sur 24.
Quoi ?
Oui, oui, oui. En fait, suite à ma chute de tension, le corps s'est centré sur l'essentiel, qui n'était clairement pas mon dos.
Ouais.
Et du coup, dans ces cas-là, tous les vaisseaux se vasoconstrictent, en fait, pour ne garder que les organes vitaux en perfusion. Et donc, du coup, tout mon dos...
Tes jambes et tout. Plus tard, on verra quand
exactement.
Ça sera revenu à la normale. Quoi.
Exactement. Et du coup, en gros, du bas des côtes jusqu'au milieu des fesses, j'ai eu des fourmis pendant 6 mois, jour et nuit. Puisque, en fait, il y a eu une hypoperfusion de cette zone-là. Et du coup, en fait, une nécrose des fibres nerveuses. Et du coup, le temps que ça repousse, quoi. Voilà.
Tout ça parce que tu voulais continuer à donner ton sang, c'est ça?
Ouais.
Si j'ai bien compris.
Voilà, voilà. C'est complètement débile.
Mais c'est important, le don de soi.
Tu vois, très important.
Surtout, c'est tellement mieux quand on s'oublie.
Ouais. Alors, ça fait clairement partie de ma personnalité. Beaucoup donner. Penser d'abord aux autres avant de penser à soi. Voilà, au risque d'y laisser ta peau quand même de temps en temps. Mais bon. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui ont pensé à moi. Hein, et qui m'ont aidé dans ces moments-là. Mais du coup, j'avais 6 grammes d'hémoglobine. Le lendemain, j'étais clairement pas fraîche. J'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de mon fils. On m'a demandé de le porter jusqu'au couloir pour le peser, parce que la balance était dans le couloir, sauf que je traînais ma sonde urinaire.
Oh là là, enfin, bon, vraiment.
Ça a été très compliqué. J'ai eu une auxiliaire de puère, je pense, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'avait pas beaucoup d'empathie et qui avait beaucoup de problèmes de communication, à tel point qu'on a fini par lui demander de plus venir me voir. On l'a changé d'elle, parce qu'elle faisait que me dire qu'il fallait peut-être que je m'occupe un peu de mon fils, quoi. Et puis que j'ouvre les volets, et puis que je me lève, et puis que hop, quoi.
Non, mais vraiment.
Voilà. Et puis, bah, lui aussi était pas très gros parce que, bah ouais, quand t'as 6 grammes d'hémoglobine, en fait, fais en sorte de survivre toi avant de faire survivre l'espèce, hein. Donc, je n'avais pas de lait. Du coup, il a dû être supplémenté. Donc, j'ai un peu vécu comme un deuxième échec dès la maternité, en fait.
Oh là là, mais.
Et donc, elle me disait que c'était pas très grave, hein. Si on avait fabriqué du lait artificiel, c'était peut-être pour ça, en fait, hein, qu'il fallait que j'arrête de me lamenter sur mon sort.
Ce qui est fondamentalement pas faux.
Oui. Mais il y a des façons de le dire. Exactement. Le fond est juste. En fait, si on a fabriqué du lait, c'est aussi pour sauver les enfants qui ne peuvent pas être sauvés par leur mère. Mais la forme, en fait. N'hésitez pas, les gars, à prendre des pincettes. Surtout quand tu as accouché il y a moins de 24 heures, que tu n'as pas dormi. Enfin, bon, voilà. Et je suis allergique au curry. Et j'ai eu, en 4 jours d'hospitalisation, 3 plats à base de curry. Donc, heureusement que je m'en suis rendu compte et que je n'ai pas mangé, parce qu'en plus, j'aurais pu faire un œdème de couinque. Voilà, bon. Un détail, mais tu te dis que vraiment, des fois,
quand ça veut pas.
Bon, maintenant, ça me fait rire, parce que...
C'est le titre de ton podcast. Karine, quand ça veut pas, ça veut pas.
C'est un peu ça, hein, à vrai dire. Voilà, donc on est rentré. Et là, pour le coup, Thibaut, il n'y avait pas encore le congé paternité, parce que c'était à partir du 1er juillet, mais j'ai accouché avant, au mois d'avril. Donc, il avait quand même réussi à prendre un mois en cumulant des congés payés, le congé de 15 jours. Et ça, c'était salvateur, vraiment. Il a été un mois à la maison, avec ses hospices, ses allers-retours à l'hôpital et tout. Mais bon, franchement, c'était très cool. La rencontre entre les deux, ça restera le plus beau moment de ma vie, je pense. C'est incroyable.
Entre ton fils et ta fille,
ouais. C'est dingue. Et puis la vie à quatre, quoi, c'était trop cool. Ce qui était très bien, c'est que moi j'avais quand même beaucoup besoin de dormir. Que Thibaut, Jeanne n'avait pas le droit du coup d'aller à la crèche, donc elle était avec nous à la maison, mais il s'est beaucoup occupé d'elle. Thibaut, il a un peu de mal avec les deux premières années de la vie de l'enfant, il trouve que c'est pas hyper fun. Après, c'est vrai, c'est pas hyper fun. À partir du moment où il y a une interaction, là, du coup, voilà. Donc, il allait beaucoup au parc avec elle, il faisait plein de trucs avec elle. Et moi, je restais avec le petit, on dormait beaucoup et on faisait beaucoup de câlins, c'était très bien. Et puis, au bout d'un mois, en fait, le jour où il a repris le boulot, c'est le jour où il avait le droit de retourner à la crèche. Donc, du coup, bah, parfait, ils sont retournés tous les deux au boulot. Et puis, nous, on est restés dans notre petit binôme à la maison. Et en fait... tu vois, c'est bizarre parce que j'étais extrêmement fatiguée, forcément. Et j'en ai un souvenir très heureux. Par rapport au congé maternité de Jeanne, où vraiment, c'était horrible. Alors que je pense que j'étais beaucoup moins fatiguée, physiquement en tout cas, mais j'étais dans une détresse psychologique qui était démentielle. J'étais hyper isolée, parce qu'on habitait très loin de tous nos copains qui travaillaient beaucoup, parce que le réseau qu'on s'était fait en Bretagne, c'était que des internes qui bossaient autant que nous. Il y avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on savait pas ce qui allait lui arriver, c'était au jour le jour et tout. Là, on habitait en ville. Je pouvais sortir, en fait, tous les jours, je sortais avec la poussette. J'allais jusqu'à la boulangerie parce que j'étais essoufflée rien que d'aller à la boulangerie. Mais en fait, c'était pas grave, c'était trop cool. J'avais des copines qui venaient me voir, j'avais mes collègues qui venaient brancher avec moi le midi. J'allais à l'hôpital présenter mon fils, pique-niquer avec elle. En plus, c'était l'été, je pense que ça fait aussi beaucoup. Il faisait hyper beau, c'était trop bien en fait. J'ai un souvenir de ce congé mat, hyper bien. Et puis, ça c'est les 3 premiers mois de congé mat, en gros, ça s'est bien passé. Après, j'ai repris le travail. Le même jour où on a déménagé.
Non, mais vraiment.
Oui, on est très. Voilà.
Oui.
Toujours dans le défi, toujours plus.
Oui. Après tout, pourquoi pas?
Et ça passe. Donc, pas toujours dans les meilleures conditions, mais ça passe.
C'est des bosses, quand même.
Ouais, un peu. Et puis, on s'est installé dans notre maison. Ça a vraiment trop bien. Nous, on est deux enfants de la campagne, donc vivre en appart, c'était compliqué. Je sais pas, tu vois, c'était un peu l'accomplissement d'avoir nos enfants dans notre maison. C'était vraiment très cool. Et puis, j'ai repris le boulot. C'était un peu compliqué parce que Maximilien dormait pas beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, c'est 5 à 6 réveils par nuit, donc c'est très entrecoupé, en fait, surtout. Et au début, quand j'ai repris, on faisait des rondes autour de la table du salon. Alors, Maximilien n'a jamais voulu dormir dans le lit de cododo. Il voulait dormir dans le dodo, pas dans le cododo. Donc, en fait, il a toujours dormi avec nous, puisque, encore une fois, j'avais une sage-femme qui m'avait fait de l'hypnose, qui venait à la maison après, qui était géniale, qui m'avait dit, en fait, au bout d'un moment, il faut dormir. Donc oui, il faut pas faire dormir les enfants avec vous. Mais si c'est ça, ou mourir, parce que vous ne pouvez pas dormir, vous pouvez pas... Mais en fait, il dort avec vous, c'est pas grave. Donc, on avait réussi à mettre... C'était l'été, donc on n'avait pas de grosses couettes, etc. Donc, on avait mis en place quand même des petites stratégies pour qu'il s'étouffe pas et puis il dormait avec nous. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il a décidé qu'en fait, il voulait plus dormir. Et donc, le soir, quand on allait se coucher, on faisait des rondes, une heure chacun, de tour de table du salon. Et au bout d'une heure, on se passait l'enfant et on retournait. Voilà. Et dès qu'on le posait, il hurlait. Et ça pouvait durer de 22h jusqu'à 5h du matin. Et on a... Parce que moi, mon mari n'est pas patient. Vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, lui, au bout de 15 minutes, en fait, c'est bon, on le pose, il gueule, c'est pas grave. Bon, ben, ça n'a pas marché. Hein. On a bien essayé de le poser, de le laisser pleurer. En fait, ça n'a jamais marché. Il pouvait pleurer 4 heures d'affilée. Bon, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait faim. Parce que, encore une fois, je n'avais pas assez de lait, parce qu'à partir du moment où j'ai repris le boulot...
Mère indigne.
Ouais, complètement.
Toujours.
Je suis très mauvaise. Parce que j'ai repris le boulot, et du coup, bah, en fait, concrètement, je tirais pourtant mon lait au boulot et tout, mais bah, en fait, on sait très bien que le stress a induit une diminution de la lactation, la fatigue, etc. Et donc, j'étais plus capable de suppléer. Donc, on l'a complémenté. Mais je pense qu'il avait pris le pli, en fait, de ne pas dormir. Donc, il se réveillait 5-6 fois par nuit. Et surtout, il ne se rendormait qu'au sein, ce qui devenait quand même un problème. Et quand il a eu 6 mois, moi, j'étais à deux doigts de l'implosion. Moi, je ne pouvais plus. Ça faisait 3 mois que ça durait. Enfin, c'était horrible. Je me sentais très seule. J'avais l'impression que Thibaut ne se sentait pas concerné, ne m'aidait pas. Ce qui, en fait, n'était pas le cas. C'est juste qu'il ne voulait pas rentrer dans mon schéma de pensée et de prise en charge du problème. Donc moi, je le vivais comme il s'endort qu'au sein, tu veux pas faire autre chose, démerde-toi, puisque c'est ta solution. Il y a que toi qui peux l'endormir au sein, donc démerde-toi. C'était pas du tout ça, en fait. C'était au contraire, c'était pour me faire prendre conscience que tu vois bien que ça ne marche pas.
Ouais.
Donc, cherche un plan B, meuf.
On est plutôt sur un profil têtu.
Ah bon? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste?
Je sais pas. Discute ensemble depuis un petit moment, là. T'es un peu... Voilà, tête de mule, quoi.
Un peu. Voilà, et du coup, en fait, on a appelé ses parents qui sont venus et on leur a dit, en fait, il faut vous en occuper parce que nous, on peut plus. Et on a la chance d'avoir une maison à étage et du coup, on s'est mis en bas, ils se sont mis en haut à côté de lui. Je me rappelle, on a fermé la porte de notre chambre pour la première fois et je me rappelle du lendemain matin où j'ai vu son père avec des valises sous les yeux. Mais vraiment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on a fait des rondes toute la nuit. Il s'est endormi à 6h du matin. Je dis, oui. C'est dur, hein. Il me fait, c'est horrible. Et donc, ils devaient rester le week-end. Nous, en fait, on est partis, du coup, se faire un week-end en amoureux. Ce qui a clairement sauvé notre couple, je pense. Parce que moi, j'étais en mode, non, mais c'est bon, en fait, on divorce, on arrête les conneries, c'est bon, on n'est pas fait pour s'entendre. Non, juste, en fait, Karine, écoute, ouvre les yeux. Prends du recul sur la situation et tout va bien se passer. Et puis, et en fait, au lieu de rester le week-end, ils sont restés une semaine. Et il a fallu une semaine pour qu'ils comprennent qu'il fallait dormir la nuit. Et depuis, il dort très bien. Et ben en fait, quand on a des enfants qui dorment, et quand du coup, soi-même, on dort.
Franchement, la vie est plus simple, non?
La vie est tellement plus belle. En fait, tu te rends compte que tu as de la patience, tu as du lâcher prise, tu as du second degré, ce que je n'avais plus du tout. Tu as du recul sur les choses, tu peux te remettre en question. Tu arrives à écouter les gens. Enfin, j'avais plus de patience avec ma fille, par exemple. C'était devenu horrible. Et en fait, ça nous a sauvé la vie, sauvé la famille. Et ils sont repartis. Je ne les remercierai jamais assez d'avoir passé cette semaine-là à la maison. C'était génial. Et en fait, depuis, ça roule. Donc, ça fait un an et demi qu'en fait, on a trouvé notre petit rythme. J'ai changé de boulot entre-temps. Ça a un peu redéstabilisé les choses. Mais ça y est, maintenant, on a notre rythme. On arrive à trouver notre équilibre. Thibaut s'occupe beaucoup des enfants parce que je pars très tôt le matin. Donc le matin, il gère. Le soir, ça dépend, celui qui finit en premier. Et c'est très cool. C'est vraiment très cool.
Comment va Jeanne alors, après?
Jeanne, elle a eu un suivi.
Toutes ces histoires.
Ouais, Jeanne, elle a eu un suivi très rapproché jusqu'en janvier là, cette année. Donc ça fait 6 mois qu'on a arrêté les IRM et les rendez-vous réguliers. Et là, elle est en moyenne section et le prochain rendez-vous, c'est en CCP, donc c'est très cool.
Okay.
Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que même si tu ne veux pas lui transmettre ton stress et ton angoisse, en fait, elle voit bien que tous les enfants ne passent pas dans la machine tous les 6 mois, quoi.
Ouais, bien sûr.
Que tous les enfants ne sont pas allés à l'hôpital. Voilà, donc elle sentait le truc. Elle a un traumatisme assez marquant des prises de sang. dès qu'on va chez le pédiatre pour l'examen de routine, elle a peur d'avoir des piqûres. Elle a très, très peur des piqûres. Même quand elle joue à être le docteur, elle ne veut pas nous faire de piqûres parce qu'elle ne veut pas nous faire mal. Enfin, voilà. Donc, elle a quand même des souvenirs assez vifs de ses hospitalisations. Mais ça va, elle évolue, en fait, hyper bien. C'est stable. Elle a toujours son caillot dans la tête. Je pense qu'on est sur une évolution atypique d'un truc rare et que ça va continuer comme ça. Hein, parce que, bon, faut quand même pas rentrer dans la norme. Donc, elle évolue hyper bien. On ne lui a jamais trop expliqué ce qu'elle avait parce que, en fait, c'est déjà hyper compliqué pour des adultes. Et puis, on ne veut pas non plus... par exemple, on ne l'a pas dit à l'école. Parce que, comme en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de surveillance particulière, il ne peut rien se passer. Ben, du coup, on n'a pas envie non plus que la maîtresse fasse plus attention à elle ou soit plus inquiète ou quoi. Voilà. Et en fait, comme ça, ça se passe bien. Donc, là, on allège la surveillance et c'est hyper bien. C'est hyper bien.
Merci d'avoir partagé tout ça, Karine. Dites donc.
Avec plaisir.
J'ai une dernière question pour toi.
Ouais.
Si tes deux enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
J'ai pas du tout réfléchi à ça, c'est complètement dommage.
Bah, va falloir laisser aller, tu sais.
Ouais. Du coup, elle aura 14 ans.
Oh là là.
Ouais. Bon, elle écoutera probablement pas, du coup, hein, mais bon.
Bon, on sait jamais. On sait jamais.
Et lui, il aura 12 ans. Mais lui, c'est. Ben. Déjà que je les aime, évidemment. Que j'espère qu'ils ont gardé leur complicité parce qu'ils sont trop mignons ensemble. Que j'espère aussi qu'ils ont un petit frère et une petite sœur. Et qu'on est toujours aussi heureux tous ensemble, en fait. Juste ça. Et qu'ils prennent soin d'eux. Qu'ils fassent pas comme nous. Qu'ils fassent pas comme nous parce que... Parce qu'on on s'écoute de plus en plus, mais on a eu besoin de temps pour le faire. Et franchement, c'est ultra important.
C'est ce que j'allais dire, c'est que prenez soin de vous avant de dire à vos enfants de prendre soin de vous, de prendre soin d'eux. Quoi. C'est,
ouais, en fait...
Il n'y a que l'exemple qui marche. Hein.
Ouais. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus et de s'écouter, en fait. Il faut vraiment s'écouter. Et un truc que j'ai réussi à faire, que très récemment, il faut savoir dire non et assumer de dire non. En fait, on a le droit.
Oui.
Sinon, ce mot n'existerait pas, en fait.
Oui.
Hein. Donc, on a le droit de dire non. Et en fait, ça ne va pas blesser les gens. Ce n'est pas grave. Mm. C'est pas grave. Et on peut aider les autres et rendre les gens heureux que si on l'est nous-mêmes. Donc, Donc, je pense que si on arrive à leur transmettre ça, ce sera vraiment chouette. Voilà.
Tu viens de dire là, l'air de rien, que peut-être ils ont un petit frère, une petite sœur.
Ben, j'espère. Je ne sais pas, mais j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous les deux.
Ouais. Ouais. Repartir pour un tour.
Ouais, en espérant que cette fois-là, ça se passe bien.
Incroyable.
Ouais, ouais, ouais.
Ah bah,
ça serait bien.
Oui.
Ça serait bien de finir sur une note positive. Et puis, là, si ça beurre une troisième fois, peut-être qu'on se dira que c'est pas fait pour nous et qu'il faut qu'on arrête.
Si ça beurre, tu dis
C'est une expression bretonne. On a chopé ça en Bretagne, ouais.
Okay.
Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Karine.
Avec plaisir, c'était vraiment très cool.
Merci à toi, c'était génial.
Super.
Et puis, bah, je vous souhaite de prendre soin de vous. Parce que vraiment, et de prendre soin de toi.
Ouais, merci.
En vieillissant, avec l'expérience.
C'est ton cours.
Bravo. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.